Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jean, l'un des douze, disait à Jésus, Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit, Ne l'empêchez pas, car celui qui a fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis. Il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes. Et qu'on le jette à la mer. Et si ta mère pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle. Que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi d'entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi d'entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Ce dimanche, nous avons reçu des paroles dures qui portent un message qui pourrait être celui de l'œcuménisme et du respect des diversités. Bien-aimés de Dieu, peuple de prophètes, le Christ nous invite aujourd'hui à être ouverts à celles et à ceux qui veulent faire le bien, à être édifiés par leur engagement, à admirer le beau travail que font celles et ceux qui ne sont pas de notre groupe. Ne les empêchez pas, même s'ils ne sont pas des nôtres. Serais-tu jaloux pour moi si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes? S'il pouvait répandre sur eux tous son esprit. Oui, prophètes, nous le sommes de par notre baptême. Nous avons reçu l'Esprit Saint au baptême et à la confirmation. Pour Jésus, la question n'est pas de savoir si l'exorciste suit ou ne suit pas les disciples. Elle est de savoir si l'exorciste dit ou non du mal de lui. En posant le principe que celui qui n'est pas contre nous est pour nous, Jésus nous donne une définition inclusive et non exclusive de la communauté de ses amis. C'est toute la différence entre les groupes ésotériques et puis les sectes et l'Église. Oui, notre Dieu est un Dieu qui embrasse largement. Il se fait proche de toute personne, quelle que soit sa condition, qui est respectueuse de Jésus et de ses disciples. Ce respect pour Jésus peut se manifester par de simples gestes, comme un simple verre d'eau donné pour étancher la soif, un geste anodin, mais dans un pays au climat chaud, ça réchauffe le cœur. À l'opposé, toute personne qui manque de respect pour un de ses petits qui croit en Jésus est loin de Dieu et donc loin du salut. C'est le sens de la mise en garde sévère de Jésus. Il nous propose trois exemples. La main qui est faite pour accueillir et s'ouvrir aux frères si elle se referme sur les biens que le Seigneur nous donne de gérer. Si elle refuse le partage et la charité, cette main conduit au péché. Le pied, qui doit servir à réduire les distances et à nous rapprocher de notre frère, à nous rendre indépendants, si ce pied refuse d'aller à la rencontre de l'autre, ce pied nous conduit au péché. et l'œil, qui est appelé à admirer la beauté de Dieu dans les œuvres qu'il accomplit par nos frères, l'œil qui nous permet de voir la misère du pauvre qui tape à notre porte. Si l'œil refuse de s'ouvrir pour contempler, pour prendre conscience de la misère, l'œil conduit au péché. Un Dieu qui embrasse si largement, oui, mais aussi un Dieu qui considère la responsabilité humaine dans la manifestation du mal. Saint Jacques dénonce l'aveuglement de ces gens qui ne croient qu'en leur richesse et qui ne savent pas ou ne veulent pas savoir qu'il y a un Dieu qui ne cesse de les appeler à se comporter autrement, à mettre fin au mal dont ils sont responsables, à placer leur confiance dans le maître de la vie, infiniment respectueux de sa création et de toute créature. Sauver sa vie, selon Jésus, suppose une perte. L'acceptation d'une perte de quelque chose de très important pour nous. Jésus utilise l'image de l'intégrité physique très parlante. Mais ne faisons pas d'erreur et n'allons pas faire une interprétation linéaire. Il ne nous demande pas d'aller nous mutiler physiquement. Il nous dit ce qu'il vaut mieux pour nous. Sauver sa vie, fût-ce au prix d'efforts, en donnant, en payant le prix fort, en remportant, en rompant avec les liens. Tel est l'enjeu crucial. Sauver sa vie ou la perdre. Le mal, certes, ne va pas disparaître complètement si nous y renonçons. La question, d'ailleurs, n'est pas celle du mal en général, c'est celle de mon rapport au mal, de ma complicité plus ou moins consciente. Y renoncer ou vouloir y renoncer suppose une conversion, un choix de vie. Voilà. Notre Dieu, au cœur largement ouvert, à la patience infinie, il pardonne nos péchés. Il nous demande de dire oui à la vie en acceptant de renoncer à ce qui conduit à la mort. C'est la logique du Dieu de l'Évangile. Perdre, oui, perdre une partie pour sauver le tout, pour sauver la vie. Puissions-nous mettre en pratique cette logique. Amen.